Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Nous sommes jeudi 14 avril 2022. Vous suivez la radio Nzamba Gatse Kakawe. C'est le moment du journal, dont voici d'abord les titres. Des échauffourées entre des Imbonerakure Corée et des membres du parti CNL ont fait un décès grave du côté du parti de l'opposition. C'était à l'issue d'une séance de vote du comité communal de surveillance en santé publique en commune de Manda de la province de Koumanza, dont les résultats ont été contestés par les membres du CNL. Il faut un stock stratégique de 6 mois au moins et une commission pour réfléchir sur la problématique du carburant au Burundi. Telles sont les propositions de l'Olicom pour venir à bout de la pénurie du carburant. Au même moment, la société Interpétrole considère que les 350 000 litres de fuel qu'elle distribue chaque jour sont insuffisants. Les ONG ne respectaient pas la loi fiscale, c'est ce que fait observer l'Observatoire burundais des recettes. C'était aujourd'hui à l'issue d'une séance de sensibilisation des responsables d'ONG sur la loi fiscale. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonsoir, bonjour et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Une personne membre du parti CNL a été grièvement blessée au cours des affrontements à caractère politique avec des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir. Cela s'est passé ce mercredi sur la colline Mulingeza de la commune Manda en province de Bubanza. Selon les sources proches de l'administration collinaire, la bagarre est née après une séance du vote du comité communal de surveillance en santé publique. Les membres du parti CNL ont dénoncé des tricheries avant de réclamer la reprise de cette séance de vote. Un bras de fer a donc été engagé avec les responsables collinaires et c'est vers la soirée que la jeunesse du CNDD-FDD est intervenue, provoquant ainsi des affrontements. Il a fallu l'intervention de la police qui a tiré en l'air pour amener de l'ordre. 3 personnes du parti CNL ont été arrêtées pour raison d'enquête, selon toujours les mêmes sources à Manda. Et au moins 10 personnes ont été mordues par des chiens enragés depuis mardi. Cela se passe sur la colline Kibogoye, en commune et province Muyinga, selon des informations en provenance de cette localité. Les résidents de cette colline sont inquiets à cause de cette insécurité, affirmant que rien n'est en train d'être fait pour protéger la population. Selon une source sur place, la population ignore d'où viennent ces chiens errants et demande à l'administration collinaire de tout faire pour organiser la population afin de mettre ces animaux hors d'état de nuire. La même source demande à l'administration d'aider les victimes des morsures à avoir des soins, car le vaccin antirabique coûte cher pour le commun des mortels. La société Interpétrole s'inquiète des quantités du carburant qu'elle met à disposition des stations-service. Selon la société, ces quantités ne satisferont pas la clientèle. Le directeur commercial de cette société affirme que chaque jour, Interpétrole distribue 350 000 litres d'essence dans plus de 110 stations-service dans tout le pays. Selon Willy Ndelagakura, en moyenne 7 000 véhicules devraient être servis à hauteur de 50 litres par véhicule. Willy Ndelagakura, directeur commercial à Interpétrole, s'exprimait ce mercredi sur la télévision nationale du Burundi.
La société Interpétrole fait de son mieux pour que ces longues files d'attente qui s'observent ne soient plus visibles devant les stations-service. Depuis 2 semaines déjà, Interpétrole alimente 350 000 litres d'essence par jour sur plus de 110 000 stations-service. Supposons qu'un seul véhicule reçoit 50 litres d'essence. Cela veut dire qu'en moyenne, 7 000 véhicules peuvent être servis par jour dans tout le pays. Nous distribuons également le mazout. Par jour, nous sortons des stocks entre 400 et 500 000 litres. Nous ne comprenons donc pas pourquoi ces longues files d'attente devant les stations-service s'observent toujours.
Le manque de devises dans le pays, le monopole de quelques sociétés pétrolières qui opèrent dans le secteur pétrolier sont parmi les causes de la pénurie du carburant qui s'observe depuis plus d'1 mois dans le pays. Point de vue de Gabriel Roussilly, président de l'Olicom, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, que je vous prie d'écouter.
La pénurie de carburant qui s'observe dans le pays dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, sachez qu'il y a un manque de devises dans le pays. C'est le constat de tout le monde et personne ne peut le nier. Je ne sais pas si le gouvernement peut avancer une autre raison. Nous avons l'information qu'il y a un manque criant des devises. La deuxième raison est que les opérateurs dans le secteur pétrolier sont moins nombreux. Si on se rend sur les différentes stations-service, le constat est qu'il n'y a que deux opérateurs, à savoir Interpetrol et Delta, qui distribuent du carburant, mais en désordre. Un autre défi est que le pays ne dispose pas de stock stratégique. Telles sont les différentes causes de la pénurie du carburant, mais à cela s'ajoutent certains hauts placés qui ont une influence dans le domaine pétrolier. On ne peut pas mettre de côté cette guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il s'observe la pénurie de plusieurs produits. Ce n'est pas seulement le carburant. Il y a le sucre, les produits parodies. Il y a aussi pénurie du charbon. Ce sont les conséquences de la pénurie de carburant.
Et entre autres solutions, Gabriel Roussilly propose la mise en place d'une commission technique permanente, mais aussi indépendante, pour se pencher sur cette question. L'ICOM suggère aussi la constitution d'un stock stratégique d'au moins 6 mois. Dans d'autres pays, le prix du carburant monte, mais il n'y a pas de pénurie qui s'observe. Encore une fois, Gabriel Roussilly.
Comme solution, le gouvernement devrait se presser à mettre en place une commission technique permanente et indépendante composée de gens venus de plusieurs secteurs, y compris ceux de la société civile, pour surseoir cette question. Deuxièmement, nous proposons la mise en place d'un stock stratégique, car un pays comme le Burundi, qui n'a pas accès sur la mer, sera toujours confronté à ce genre de problème. Il faut au moins un stock de 6 mois. Ailleurs, le prix du carburant monte, mais il n'y a pas de pénurie qui s'observe. Les gens sont vraiment fatigués et c'est visible. Troisièmement, il faut que le gouvernement supprime le monopole dans ce secteur. Un ou deux opérateurs ne peuvent pas couvrir tout le marché. Il faut ouvrir le marché à plusieurs opérateurs. L'autre problème, non moins négligeable, est consécutif à la pénurie des devises. Les voies de sortie sont connues. Il faut que le gouvernement multiplie les exportations des produits comme le coton, le thé, le café et le sucre, qu'il développe le secteur minier, mais aussi attire les investisseurs étrangers, sans oublier le tourisme.
Inzamba. On a déjà remarqué que les organisations non gouvernementales ne respectent pas la loi fiscale en ce qui concerne les taxes de l'Office burundais des recettes. C'est ce qu'a annoncé Stanislas Nindagumana, porte-parole de l'OBR. C'était ce jeudi lors d'une réunion de sensibilisation des représentants des ONG sur les procédures fiscales. Selon lui, de tels manquements s'observent souvent lors des clôtures des activités. Écoutez Stanislas Nilakumana.
Et dans cette catégorie de contribuables, il y a des erreurs qui sont commises, parfois par ignorance ou tout simplement en voulant échapper au fisc, on ne peut pas se le cacher. Alors, en organisant cette réunion, on voudrait être au même degré d'information par rapport au respect des prescrits de la loi, en ce qui est des obligations fiscales et douanières par les ONG au Burundi, afin qu'elles puissent contribuer à l'amélioration des recettes fiscales et douanières. On peut observer les erreurs depuis l'implantation d'une ONG et jusqu'à la fin du projet ou à la clôture des activités par une ONG. Eh bien, partant du début des activités des ONG, Nous avons constaté que, par exemple, certaines ONG ne savaient pas les procédures de demande d'exonération ou les documents que l'OBR exige dans la recherche des exonérations afin que ces ONG puissent jouir des dispositions qui sont prévues par la loi sur les exonérations au Burundi. Après, on peut constater parfois que certaines ONG ne savent pas bien déclarer l'impôt sur les revenus d'emploi pour leurs employés. En plus de cela, on peut observer que certains défis dans la collecte de la TVA ou le remboursement TVA pour le cas des prestations ou des fournitures auprès de ces organisations non gouvernementales. Et au niveau de la douane, on peut observer les erreurs qui sont commises par certaines ONG et qui sont relatives à la gestion de la fin des projets ou de la clôture des activités. C'est entre autres la cession des véhicules ou la vente des biens, meubles et immeubles, et lorsque les ONG clôturent leurs activités.
Et les personnes déplacées victimes des inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika, des collines Kanyemoko et du centre urbain de la commune de Mungwe vivent dans la désolation. Ils ont peur d'attraper des maladies liées aux mains sales et demandent au gouvernement de leur venir en aide. Le gouverneur de la province de Mungwe les rassure et leur promet qu'ils seront bientôt réinstallés dans d'autres lieux plus appropriés. Le point avec Trifine Tanoa.
Elles sont au total 32 familles. Ce sont des hommes, des femmes et leurs enfants qui logent à la Belle Étoile au centre communément appelé Semina depuis 2021. Ces familles disent qu'elles vivent dans de mauvaises conditions. Pas de couverture, pas de nourriture, pas de lieu d'aisance.
Nous avons été inondés par les eaux du lac Tanganyika. C'est l'administrateur et le gouverneur qui nous ont placés ici. Nous vivons dans de mauvaises conditions. Nous manquons de nourriture. Les enfants tombent de plus en plus malades à cause du froid. Nous n'avons pas de quoi payer des frais de scolarité. Nous demandons à ce qu'on nous trouve des logements.
Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lumonge, indique qu'il est au courant de cette situation. Toutefois, cette autorité provinciale indique qu'elle attend la libération du terrain par le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions.
L'endroit où ils vont être logés est disponible. Nous avons soumis la question au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous attendons la réponse. Et nous espérons que la réponse sera bonne, car même au ministère de la Solidarité, ils ont pris la question en main. Bientôt, s'ils déplacés, seront relocalisés.
Les eaux du lac Tanganyika sont montées depuis 2018. L'administration provinciale parle de 2801 familles touchées dans cette province. Selon les informations recueillies à Lumonge, plus de 5000 maisons sont détruites.
Ils demandent aux responsables communaux de l'éducation à Gihanga de leur donner leurs frais d'encouragement. Ce sont les enseignants vacataires volontaires de la commune Gihanga en province de Bouanza qui font savoir que le problème de paiement des frais d'encouragement est survenu avec la prise en main de cette question par la commune. Auparavant, les écoles qui avaient des professeurs vacataires volontaires étaient payées par les cotisations des parents et il n'y avait pas de problème de non-paiement. Plus de détails avec Benny Axel Akan.
Ces enseignants vacataires volontaires qui réclament leur prime d'encouragement ont été recrutés dans cette commune après une réunion d'évaluation du niveau de la qualité de l'éducation dans cette commune. Le constat a été qu'il a un niveau bas de la qualité de l'éducation à cause du manque des enseignants. Il a été alors décidé le recrutement des enseignants vacataires volontaires qui seront primés dans un fonds à éducation de la commune. Chaque enfant devra payer 500 francs burundais par trimestre. La commune a promis de subventionner les fonds ainsi que certaines autorités et dignitaires natifs de la commune Gihanga. Ces enseignants vacataires volontaires indiquent que depuis cette date, le paiement des primes est aujourd'hui difficile, alors que dans le temps, cette prime ne causait aucun problème avec les cotisations seules des parents sous la responsabilité des directeurs des écoles. Auparavant, quand la prime provenait seulement des cotisations des parents, les enseignants recevaient la prime de plus de 50 000 francs burundais. Mais aujourd'hui, la somme est revue à la baisse avec des disparités pour les détenteurs des mêmes diplômes avec une même charge horaire. Et pour pour certains, ils ne reçoivent même pas leurs primes.
Les bénévoles existaient, ils obtenaient les primes d'encouragement de la part des parents régulièrement. Mais après, l'administrateur a dit qu'il doit y avoir un fonds au niveau de la commune qui se chargera de donner ou rémunérer les bénévoles. La prime qu'on a obtenue était revue à la baisse. Et la direction communale de l'enseignement n'a pas précisé les critères auxquels ils se sont référés pour donner cette somme. Des enseignants qui ont le même diplôme, le même niveau et qui ont une même charge horaire et qui ne peuvent pas obtenir la même somme. Il y a même les enseignants qui n'ont pas eu cette somme.
Certains de ces enseignants vacataires volontaires n'ont même pas donné les points du deuxième trimestre. Et au lieu de leur donner la prime qu'ils réclament, les autorités communales recourent à l'intimidation de ces derniers.
L'inspecteur communal, il m'a dit qu'il faut accepter cette somme telle qu'elle est. On a posé la question au directeur communal de l'enseignement. La réponse est restée la même. Il faut accepter cette somme ou la laisser. Qu'est-ce que nous demandons comme bénévoles? Il faut que la direction communale de l'enseignement commune Guihang donne les primes aux bénévoles qui ont effectué leurs tâches. Il faut que aussi la commune s'implique pour que nous obtenions nos primes. Aujourd'hui, nous sommes à mi-avril. On n'a pas encore reçu les primes pour le mois de mars. C'est dommage.
À la rédaction de la radio Inzamb Agateka Kawe, nous n'avons pas encore eu la version des faits d'Egide Sabouchimi qui est inspecteur communal, ni celle de Bonaventure Ndaïdiga, directeur communal de l'enseignement, encore moins celle de Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour qu'il puisse éclairer l'opinion sur cette question des primes des enseignants vacataires volontaires.
Merci Béni Axel Kana pour ces précisions. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.